Évangile selon Matthieu au chapitre 18. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant, « Seigneur, use de patience envers moi et je te payerai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant, « Paye si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Use de patience envers moi, et je te payerai. » Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés, et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père Céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère.
N'entendra plus la bonne nouvelle du royaume. Il ne lui sera plus présenté ce qui était l'objet du ministère du Seigneur jusque-là. Va se réaliser pour eux ce que le prophète avait annoncé et cette citation est donnée dans le chapitre 13. Leurs yeux ont été obscurcis et leurs oreilles se sont bouchées. Et leur cœur endurci était incapable désormais de profiter de la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur parle en parabole. Qu'est-ce que ce terme? D'où vient-il et où nous conduit-il? Faut se souvenir qu'il se trouve 50 fois dans le Nouveau Testament. C'est un enseignement que seul le Seigneur donne, mérite donc toute notre attention, tout notre intérêt par le fait que le Seigneur est l'auteur de toutes les paraboles qu'il donne dans le Nouveau Testament, dans les évangiles notamment. 16 fois dans l'évangile selon Matthieu, 50 fois en tout, il y a 2 fois le mot figure ou qui est équivalent à parabole dans l'Épître aux Hébreux. Seigneur nous donne donc un enseignement par parabole. Terme cité 50 fois, 16 fois dans l'évangile selon Matthieu, et dans ces paraboles, il y a des paraboles du royaume des cieux. Mais n'anticipons pas. Retenons maintenant que cette première manière d'enseigner, elle se trouve au verset 3 du chapitre 13. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles. La première fois que nous trouvons ce terme dans le Nouveau Testament. Faut nous souvenir que l'évangile selon Matthieu a été écrit très tôt, entre 53 et 58, une dizaine d'années avant Marc et Luc. Et donc la première fois que nous avons, historiquement parlant, l'emploi du mot « parabole » dans Matthieu 13. Personne n'a jamais employé ce mot auparavant, sinon 3 fois dans l'Ancien Testament, mais nous n'allons pas revenir sur cette expression d'un psaume est trois fois dans le prophète Ézéchiel. C'est toujours d'ailleurs dans le même cercle, dans le même contexte. Mais nous laissons l'Ancien Testament, cela nous entraînerait trop loin. Alors le Seigneur parle donc maintenant auprès de la mer, donnant ainsi audience aux nations et refusant toute communication avec sa mère et ses frères, disant, « Désormais, je ne reconnais comme ma mère et mes frères que ceux dans le cœur desquels la parole de Dieu a opéré pour produire la vie capable de manifester des fruits. Mais le Seigneur ne tire plus, n'essaye plus de tirer du fruit de la vigne ou du figuier, sans définir l'Israël comme peuple mis à part pour Dieu. Il a clos son histoire moralement dans le chapitre 12, pour les raisons que nous avons déjà citées. Et le Seigneur va donc parler en parabole. La première parabole qu'il va nous donner est une parabole liminaire, d'introduction. Ce n'est pas une parabole du royaume des cieux. C'est une parabole qui s'adresse à chacun de ceux qui l'entendent. Parole qui a donc un effet individuel. Elle présente les quatre terrains présentés chez ceux qui entendent cette parole. Et dans les quatre terrains, il y a un seul terrain convenable dans lequel Dieu a opéré, dans un terrain meuble, un terrain préparé pour recevoir la parole de Dieu. Mais les autres, les trois autres terrains sont sans fruit, même s'il y a quelque apparence de profit, elle est bientôt disparue. Donc il y a un quart de la parabole, c'est-à-dire une fois sur quatre, le Seigneur peut dire, voilà le bon terrain sur lequel la parole est produite. C'est une parabole d'introduction. Nous en avons la preuve en lisant l'évangile selon Marc. Si nous ne comprenons pas cette parabole, si nous n'avons pas bien saisi sa portée, nous sommes peu habilités pour comprendre les suivantes. Le Seigneur dira, à l'égard de cette parabole, Marc 4, verset 13, « Ne connaissez-vous pas cette parabole ?» Celle que nous avons ici et qui se retrouve dans Marc 4. Le Seigneur dit, « Ne connaissez-vous pas cette parabole étant donné son importance ?» Car, dit-il, « Comment connaîtrez-vous toutes les paraboles ?» Si vous n'avez pas saisi la première parabole, dans son effet, dans sa portée, vous n'êtes pas à même de comprendre les autres paraboles. Alors, dans ce qui va suivre, pour faire court, nous avons six paraboles du royaume des cieux. Le Seigneur va nous montrer dans ces paraboles l'effet produit par le semeur, c'est lui-même, il ne demande plus rien, il apporte comme un semeur la semence propre à faire germer le fruit qu'il a jeté sur la terre. Et il va nous montrer maintenant dans six paraboles d'ensemble, collectives, non plus une parabole à effet indicatif, présent et individuel comme la première, mais dans les six paraboles, Dieu va nous montrer le côté extérieur repris, amené par la prédication de la parole. Trois paraboles montrent à la multitude les effets extérieurs de cet ensemble de choses. Le royaume des cieux a été fait semblable, nous avons retrouvé six fois cette parabole. Le Seigneur a fait son œuvre, première parabole, et le diable a fait également son travail. Et la parabole nous montre la croissance du bon grain avec l'ivraie qui l'accompagne. Et le Seigneur montre à ses disciples que les disciples ont un meilleur but, un meilleur travail à faire que d'enlever, livrer, séparer, livrer du bon grain. Le Seigneur dit, ce n'est pas à vous à le faire, et ce sera fait à la fin de la moisson, à la fin de la consommation, lorsque les anges interviendront pour accomplir ce travail. Remarquons en passant que les hommes se sont lourdement trompés lorsque dans l'histoire, ils ont pensé qu'il était convenable d'enlever, livrer du champ, alors qu'ils ont enlevé la bonne récolte et avec les conséquences, la confusion qui en découle. Donc, première parabole, effet extérieur, la semence qui germe, mais il y a livré. C'est un étonnement pour les disciples, Le Seigneur montre qu'à côté de son travail, il y a celui de l'ennemi. Il montre aussi que la femme dans laquelle, la femme qui pétrit de la farine, elle introduit du levain. Le levain, image du mal, qui a pénétré la pâte et qui va se lever, c'est un effet corrupteur de cet élément qui est introduit dans la farine, dans la pâte, jusqu'à ce que la pâte soit mise au feu et que le feu, image du jugement, arrêtera cet effet du mal. Enfin, il y a la parabole du grand arbre. Le Seigneur montre que le christianisme, au commencement, 12 disciples, 120 dans le livre des Actes, au commencement, a donné naissance alors, dans ce qui est ultérieur, à une chose de très grand prix, une chose de grande valeur pour l'œil de l'homme. Mais il montre que, hélas, dans cet arbre, sont venus se loger, sont venus habiter tous les oiseaux des cieux. L'oiseau des cieux est une image du mal, nous le savons bien. Et cette grande apparence, figurée par un arbre qui a pris beaucoup d'importance, nous le retrouvons dans l'Apocalypse, l'Église comme multitude, c'est le repère de tout esprit monde. C'est ce qu'elle va devenir demain, ce qui sera visible, ce qui sera pleinement manifesté demain. Enfin, il reste 3 paraboles qui montrent le côté intérieur de ce royaume des cieux. S'il y avait eu, nous avons bien remarqué cela, s'il y avait eu la réception du Seigneur comme étant le roi, puisque le Seigneur est le roi, il est le Messie, psaume 2, il est le fils d'Abraham, fils de David, c'est ainsi que Matthieu nous le présente. Il n'y aurait pas eu de parabole du royaume des cieux. Nous comprenons bien cela. Si le Seigneur avait été reçu, et si le royaume s'était établi, il n'y avait pas de mystère à ce royaume. C'était l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites. Mais dès que le roi est rejeté et qu'il est remonté au ciel, ce royaume prend un sens particulier, mystérieux, le sens que le Seigneur nous donne dans l'expression « royaume des cieux ». Le royaume dépend du ciel d'où il est remonté. Et plus tard, il y aura, et Matthieu montre cet enchaînement, le royaume de Dieu. Là, c'est un royaume moral, lorsque le Seigneur est là et que ses droits sont établis, que Dieu lui a donné la possession de toutes choses, c'est le royaume de Dieu. Nous l'attendons, c'est pour l'avenir. Mais en attendant, pendant la dispensation actuelle, et l'Église multitude s'unit pratiquement au royaume des cieux, nous sommes dans ce temps où tout est mystérieux, où il y a le mélange du bien et du mal, dont il faut évidemment tenir compte et se séparer. Encore un mot, les 3 paraboles qui suivent sont des paraboles qui montrent aux disciples ce que ce royaume est à l'intérieur, le prix qu'il a pour Dieu dans sa partie vitale. Et nous avons alors le Seigneur qui est vu comme un marchand qui a acheté le champ. Et dans ce champ, il y a un grand trésor, les siens, le résidu, l'Église, si l'on veut aussi. Dans ce champ qu'il a acheté, non seulement il est le Créateur, mais il est l'héritier et il est celui qui a acheté le champ. Le rachat et l'achat sont 2 choses différentes. Il est donc le Créateur, il est le Fils, et il est celui qui a acheté le champ, qui l'a ravi, mais pas encore visible aujourd'hui aux mains de l'usurpateur. Vous voyez ? Alors, il a acheté ce champ, et dans ce champ, il y a un grand trésor. Il est à même de l'apercevoir, de le connaître, d'en jouir. Il l'a fait selon son propos, selon le cœur de Dieu. En même temps, c'est un marchand, une autre parabole, qui est capable d'apprécier les pierres qui lui sont données en main. Tout le monde n'a pas cette capacité, mais c'est un marchand, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de considérer les pierres. Et tout à coup, en les manipulant, il a trouvé une pierre qui a un prix extraordinaire. Elle brille de 1000 feux, elle a un attrait particulier pour son cœur, et s'en allant, il s'en va pour vendre tout ce qu'il avait. S'en allant, c'est une expression que nous retrouvons déjà dans l'Ancien Testament, le bouc qui s'en va. Ce Seigneur est sorti, s'en est allé son chemin, comme le bouc de Lévitique 16 allait son chemin en vue de l'accomplissement de la pensée de Dieu et du pardon qu'il voulait accorder au peuple pendant une année. Enfin, il y a une dernière parabole, la parabole dans laquelle le Seigneur montre comment les disciples sont habilités, sont conditionnés pour faire le triage sur le bord de la mer entre tous les poissons qui ont été tirés sur le rivage. Il y a de bons poissons, nous connaissons bien la marque des bons poissons, ce qui les distingue des autres, et il y a aussi des poissons qu'il faut rejeter, qui n'ont pas la marque, qui n'ont pas les caractéristiques d'un bon poisson. Cela nous est donné dans la parole. Et enfin, le Seigneur dit dans le chapitre 13, pour finir, « Eh bien, vous voyez ce que je vous ai enseigné. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais aux disciples, il n'est plus donné. » La parabole, encore ce mot, c'est donc un petit récit imagé qui met en scène des éléments communs, connus, jetés à côté d'un enseignement qui est caché, mais qui est d'une valeur beaucoup plus grande. Ce n'est pas difficile de réaliser qu'un homme sème son champ et qu'il s'en va portant la semence. Mais si le Seigneur n'ouvre pas le cœur pour comprendre ce qu'est la semence et quels sont les différents terrains, quels sont les effets produits, on ne peut pas le comprendre. Mais aux disciples, le Seigneur dit, moi, je vous fais comprendre tous ces mystères parce que votre cœur est réveillé. Et on comprend dans ce chapitre par le cœur, non pas par l'intelligence. C'est un moyen, un outil de grande valeur sans doute, mais on comprend par le cœur. Et enfin, le Seigneur termine ce chapitre, ayant achevé ses paraboles, il présente le maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Choses nouvelles, ce sont les paraboles que le Seigneur vient de présenter, et les choses vieilles, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament qui se superpose à ce qui vient d'être dit, de telle manière que les choses nouvelles le complètent. Ce n'est pas le propos de Dieu révélé à l'apôtre Paul à l'égard de l'Église. C'est la prérogative d'un disciple du royaume intelligent qui pouvait rattacher tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament à l'égard du royaume avec ce que le Seigneur vient de nous dire. Donc, nous avons terminé avec cette petite introduction quant à nous-mêmes. 6 paraboles, 3 pour l'extérieur, 3 pour l'intérieur. Nous avons expliqué qu'était la parabole, un récit imagé qui donne à connaître à ceux auxquels la chose est révélée un enseignement des plus précieux. Et maintenant, il y a encore 4 paraboles, et dans la première, nous allons voir le cas que les Juifs ont fait de ce pardon qui leur a été accordé grâce à l'intercession du Seigneur sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Mais nous n'anticipons pas, peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur le chapitre 13.
Nous enchaînons encore avec ce qui vient de nous être dit concernant cette introduction du glorieux sujet du royaume des cieux, donc expression que l'on ne trouve que dans l'évangile selon Matthieu. Enchaînant donc avec l'introduction que nous venons d'entendre, nous aimerions dire quelques mots de la personne du roi. Nous parlons du royaume des cieux, dans l'autre passage, le royaume de Dieu. Il importe que nous nous occupions un instant de la personne même de celui qui est le roi. Qui dit royaume, dit roi. Il n'y a pas de royaume sans qu'il y ait à sa tête quelqu'un qui dirige, qui commande, la personne du roi. Disons quelques mots donc au sujet de la glorieuse personne du roi, notre Seigneur lui-même. Le roi est présenté tout d'abord dans les Écritures comme étant le roi de la ville même de Jérusalem. Soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, il nous est parlé du Seigneur Jésus comme étant le roi d'une telle ville. Lisons un seul psaume qui nous parle à l'évidence d'un tel roi. Le psaume 48e, au verset 2, nous dit ceci. Il est parlé d'abord de l'Éternel au premier verset, qui est grand, qui est fort digne de louange, dans la ville de notre Dieu, dans sa montagne sainte, belle dans son élévation, la joie de toute la terre et la montagne de Sion, aux côtés du nord, la ville du grand roi. Jérusalem est présentée comme étant la ville du grand roi. Elle est l'appartenance du Seigneur. Le Seigneur a tout droit sur cette ville, capitale de son peuple, capitale de la terre. Et alors, dans ce même évangile, selon Matthieu, nous entendons le Seigneur lui-même employer une telle expression pour parler de notre Seigneur. Dans le discours sur la montagne, au chapitre 5e, il nous est dit ceci, au verset 34, « Je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. » Voilà donc un premier domaine où notre Seigneur est vu comme étant dominant et dirigeant. Jérusalem est la ville du grand roi. Dans un contexte plus étendu, nous voyons le Seigneur Jésus comme étant le roi du peuple d'Israël, pas seulement d'une ville, mais de tout le peuple dont Jérusalem est la capitale. Et nous lisons en effet dans, par exemple, dans le chapitre 43 d'Ésaïe, nous lisons ces mots, Ésaïe 43, au verset 15e, lisons depuis le verset 14, « Ainsi dit l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous j'ai envoyé à Babylone, et je les ai fait descendre tous comme des fugitifs, même les Chaldéens, dans les vaisseaux où s'entend leur cri. Moi, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Le Seigneur est donc présenté comme étant le roi de ce peuple terrestre qui est le peuple d'Israël. Du reste, au psaume 47e, nous avons également une invitation à chanter. Au verset 5 du psaume 47, il nous est dit que Dieu est monté avec un chant de triomphe, l'Éternel avec la voix de la trompette. Chantez Dieu, chantez, chantez à notre roi. Chanter. Et alors, le verset 7 de ce psaume 47 nous montre que le Seigneur n'est pas seulement le roi de Jérusalem, il n'est pas seulement le roi du peuple d'Israël, mais il est le roi des nations. Et le verset 7 de ce même psaume 47 nous dit ceci, « Car Dieu est le roi de toute la terre, il est celui à qui il faut chanter avec intelligence, Dieu règne sur les nations. » Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. Alors, une bénédiction particulière est invoquée pour les nations qui sont attachées au peuple du Dieu d'Abraham. Le verset 9, qu'on nous permet cette petite parenthèse, « Ceux d'entre les peuples qui sont de bonne volonté se sont réunis au peuple du Dieu d'Abraham, car les boucliers de la terre sont à Dieu, il est fort exalté. » Une toute petite parenthèse, chers amis, il est parlé du Dieu d'Abraham. C'est la seule fois que dans le livre des psaumes, il est parlé du Dieu d'Abraham. Et cela nous étonne, et cela peut bien nous étonner, qu'il soit parlé une seule fois dans le livre des psaumes, le livre de l'adoration, qu'il soit parlé une seule fois du Dieu d'Abraham, alors que tant de fois il est parlé du Dieu de Jacob. Abraham, le témoin fidèle, le témoin de la foi, comme il y en a eu très peu, il a dû rester appelé le père de ceux qui croient, eh bien le Dieu d'Abraham n'est mentionné qu'une fois dans ce livre. Le Dieu de Jacob, ce pauvre homme qui a tant déshonoré Dieu pendant si longtemps dans sa vie, jusqu'à la fin alors, la fin fut un magnifique couchant, c'est vrai, manifestation de la miséricorde de Dieu à son égard. Alors Dieu se plaît véritablement à exalter sa grâce en s'appelant si souvent dans le livre des psaumes le Dieu de Jacob, en contraste avec une seule fois le Dieu d'Abraham. Nous avons donc le Seigneur Dieu Jérusalem, le Seigneur le Dieu du peuple d'Israël, le Seigneur le Dieu des nations ou le Dieu de toute la terre. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons cette expression du Dieu des nations. N'est-il pas dit dans une scène où l'on entend le cantique de Moïse, plus encore le cantique de l'agneau, n'est-il pas dit en Apocalypse 15, ces mots, la question est posée, Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. Et maintenant, s'il s'agit du croyant, s'il s'agit d'un croyant appartenant au peuple d'Israël, Dieu était également son roi. Il était connu personnellement par un fidèle en Israël comme étant son roi. Et c'est pour cela que si souvent, dans le livre des psaumes par exemple, on voit Dieu invoqué par David comme étant son roi. Nous ne citons que deux passages pour ne pas multiplier les citations, deux passages dans le livre des psaumes, au début du livre en rapport avec la prière, et à la fin du livre en rapport avec l'action de grâce. En effet, au psaume 5, nous lisons ceci. Au psaume 5, nous lisons ces mots. Au premier verset, prête l'oreille à mes paroles. David prie. Ô Éternel, considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu. Car c'est toi que je prie. En rapport avec la prière, David est en prière, il a conscience qu'il s'adresse à Dieu qui est son roi. Et au psaume 145, tout à la fin du livre, au psaume 145, nous lisons ces mots. Le premier verset, « Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Je te bénirai chaque jour, je louerai ton nom à toujours, à perpétuité. L'Éternel est grand, fort digne de louange, sa grandeur est insondable. Voici donc David, le psaume 145 porte ce titre, cette suscription de louange de David. Au psaume 5, David prie, et il a conscience qu'il s'adresse à Dieu qui est son roi. Au psaume 145, il loue, il adore, et il sait qui il adore. Celui qui l'adore est son Dieu, son roi. Je t'exalterai, mon Dieu, ô roi. Alors la question qui se pose, et qui a été souvent posée, c'est dans quelle mesure est-ce que le chrétien, nous-mêmes, chers frères et sœurs, dans quelle mesure est-ce que nous avons à nous adresser à notre Dieu, soit pour prier, soit pour louer, comme celui qui est notre roi? Eh bien, chers amis, nous ne connaissons pas, pratiquement parlant et doctrinalement parlant, nous ne connaissons pas le Seigneur comme étant notre roi. Pour deux raisons. Tout d'abord, pouvons-nous citer un passage dans les épîtres, dans les écrits des apôtres, où le Seigneur Jésus est invoqué, par exemple, comme étant le roi, ou adoré? Y a-t-il une doxologie qui s'adresse à celui qui est le roi, personnellement connu par celui qui exprime cette doxologie? Nous ne connaissons pas de passage à cet égard. Et la raison deuxième, plus élevée, de laquelle William Kelly a laissé une étude absolument remarquable sur ce fait, pourquoi le chrétien ne s'adresse-t-il pas à son Seigneur comme étant son roi? Eh bien, la deuxième raison, ceci, c'est que le titre de roi de notre Seigneur est un titre en rapport avec la terre, en rapport avec sa gloire royale, la gloire de celui qui un jour règnera sur la terre. Du reste, c'est en cela que nous introduit le magnifique sujet des paraboles du royaume des cieux. Eh bien, chers amis, le chrétien n'est pas un être qui appartient à cette terre. Doctrinalement parlant, fondamentalement parlant, il appartient au ciel. Il est un être céleste. Et voilà pourquoi il ne s'adresse pas au Seigneur Jésus, dans lequel il a toute bénédiction, comme celui qui est le roi. Le titre de roi de notre Seigneur est en rapport avec la terre. C'est une gloire terrestre de notre Seigneur. Un jour, sur la terre, il sera vu comme étant pas seulement le roi, mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais le chrétien est un être qui appartient au ciel, Il connaît Jésus comme étant le Christ, comme étant son Seigneur. Il prie le Seigneur Jésus, il adore le Seigneur Jésus, mais non pas le roi. Le roi qui est un titre qui appartient à cette terre et qui appartient à... qui est l'une, en fait, qui est l'une, qui est l'expression de l'une des gloires terrestres de notre Seigneur. Un dernier mot, où il nous est parlé du Seigneur Jésus comme étant le roi, et ce titre est le plus ample qui soit, le Seigneur, et on comprend que soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, il soit présenté comme tel, le roi dans le sens de celui qui domine toute notion du temps. Il est au-dessus de ce qu'est le temps. Il est au-dessus de toutes les divisions du temps. Il est au-dessus de toutes les économies. Il est Dieu depuis toujours et il est Dieu pour toujours. Voilà pourquoi le prophète Jérémie, au chapitre 10 de son livre, parle de celui qui est le roi d'éternité. Pas même seulement le roi du temps ou le roi qui domine au-dessus du temps, non. Il est celui qui domine étant Dieu depuis toujours, l'éternité passée, pour toujours, jusque dans l'éternité à venir. Il est le roi d'éternité. Alors l'apôtre Paul, dans l'une de ses célèbres doxologies, celle qui se trouve au début de la première épître à Timothée, parle du roi des siècles. Il vaut la peine de lire une telle doxologie. En 1 Timothée au chapitre 1, au verset 17, il a donc parlé de la merveille de la grâce et de la miséricorde de Dieu à son égard, de ce que Dieu dans sa grâce a pu s'occuper d'un individu tel que lui. Il donne la plus terrible description de lui-même quand il ne connaissait pas Dieu. « J'étais un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux, et Dieu a voulu s'occuper d'un être pareil, est-ce possible ?» Deux fois il dira « Mais miséricorde m'a été faite. » Mais miséricorde m'a été faite. Et alors, en pensant à une telle miséricorde, voici que de son cœur s'échappe cette magnifique parole d'adoration, le verset 17, au roi des siècles. Voilà le roi d'éternité. Le roi d'éternité, celui qui est Dieu depuis toujours et pour toujours. Le roi des siècles, celui qui est au-dessus de tous les siècles, de toutes les dispensations de cette terre. Ô roi des siècles, l'incorruptible, l'invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, roi de Jérusalem, le Seigneur Jésus, roi du peuple d'Israël, le Seigneur Jésus, roi des nations, le Seigneur Jésus, roi de toute la terre, et enfin le Seigneur Jésus, roi d'éternité, roi des siècles. Et voilà, chers amis, quelques pensées au sujet de ce titre glorieux de notre Seigneur. Il est le roi, et un jour sur la terre, il sera connu, comme il est dit deux fois à la fin du livre de l'Apocalypse, comme étant le roi des rois, comme étant le Seigneur des seigneurs. Nous avons le bonheur de le connaître sous ce titre-là. Il est notre Seigneur, celui qui a toute autorité sur nous. Il n'est pas notre roi, ce n'est pas comme tel que nous le prions ou que nous l'adorons, du moment que une telle gloire appartient aux nombreuses gloires terrestres de notre Seigneur et que le chrétien est un être qui appartient au ciel. Nous sommes du ciel, chers amis, et voilà pourquoi nous ne prions pas. Nous n'exprimons pas dans nos prières et dans nos actions de grâce un tel titre de gloire, toi, Seigneur Jésus, mon roi, toi, Seigneur Jésus, notre roi. Il nous semblait indiqué et même profitable de dire quelques mots sur la personne de celui qui est à la tête du royaume des cieux, la personne du roi, avant d'entrer alors dans l'étude de cette autre parabole des cieux, celle du chapitre 18e, dont on a fait la lecture. Nous nous arrêtons là, pensant que peut-être un frère a encore une pensée dans le sens de l'introduction à un tel sujet, encore une pensée à exprimer.
L'Église, en général, et le croyant du temps actuel, est intéressé à toutes les gloires du Seigneur Jésus. tout ce qui le concerne, doit nous occuper, pas seulement le fait qu'il est notre sauveur personnel. Mais si nous aimons le Seigneur qui a été sur la terre méprisé, rejeté, ne pouvons pas ne pas nous réjouir du moment où il établira son royaume, où il sera reconnu de tous. Toutes les gloires du Seigneur sont partagées avec son Église. C'est un deuxième motif pour nous intéresser aux gloires de Christ. Le premier, c'est que nous l'aimons. Le second, c'est que il veut bien nous associer à ce qui le concerne, comme homme. Tout ce qui le concerne, n'est-ce pas? La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Et nous sommes appelés, l'Église est appelée à régner avec le Seigneur. Et en confirmation de ce qu'on vient d'entendre, le Seigneur Jésus n'est donc pas roi sur son Église, mais il s'associe l'Église un peu, pour prendre une comparaison banale, comme un roi a auprès de lui son épouse, qui est la reine, qui règne avec lui, qui n'est quelque chose qu'en fonction de son époux, et ainsi le royaume a à sa tête le couple royal qui rejette bien sûr l'honneur sur le roi lui-même. Mais toujours dans un titre d'introduction, nous savons que c'est l'évangile de Matthieu qui nous occupe, dans lequel nous lisons les passages qui nous occupent, que nous avons la présentation du Seigneur comme Messie et comme roi. Et ce titre, cette gloire royale qui lui est attribuée dès le début de l'évangile, où nous le voyons introduit par sa généalogie, instituant les lois du royaume, le sermon sur la montagne, puis nous le voyons s'avancer au milieu de son peuple pour se faire reconnaître. Et puis finalement, on nous l'a rappelé à la fin du chapitre 12, il est rejeté. Alors, en mystère, il nous présente ses paraboles. Puis, nous arrivons alors à la fin de l'évangile, et nous voyons quelque chose de bien important, c'est que cette autorité qui lui a été refusée par les hommes, Dieu la lui donne. Et il peut proclamer, tout à la fin du chapitre 28, cette parole essentielle, verset 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a donc là, Dieu ne permet pas que cet évangile s'achève sur le rejet, mais sur la perspective de l'établissement du royaume futur, et l'autorité du Seigneur est là, établie et proclamée par lui-même. Et alors à ce titre, on peut dire que le royaume des cieux comporte aujourd'hui dans un sens la chrétienté se superpose avec cette sphère qui comprend tous ceux qui par le baptême auquel il est fait allusion là reconnaissent extérieurement l'autorité du Seigneur, se prétendent chrétiens, se proclament chrétiens, ce qu'on appelle la profession chrétienne, la grande chrétienté, mais la chrétienté à laquelle, frères et sœurs, nous appartenons. Dans ce sens-là, le royaume est une sphère plus étendue que l'Église. Le royaume, c'est l'ensemble de ceux qui, extérieurement, prétendent être soumis au Seigneur Jésus-Christ, revendique son nom, l'invoque comme dit Jacques, le beau nom qui a été invoqué sur nous. Nous savons, hélas, que dans la chrétienté aujourd'hui, il est loin d'en être ainsi. Mais il en sera demandé compte à ceux qui ont pris ce nom, à ceux qui se réclament de l'autorité du Seigneur. Alors le croyant, lui, à plus forte raison, doit-il être soumis au Seigneur, à reconnaître son autorité. Pas celle d'un roi, on l'a entendu, mais son autorité de Seigneur. Et c'est pour cela que ces passages sont importants pour nous et ont toute leur application. Si on ne voulait les appliquer qu'au royaume terrestre et à Israël, nous pourrions bien nous en occuper, mais nous ne nous sentirions pas concernés et impliqués moralement par ces passages. Or, les principes que le Seigneur établit sont valables pour tous ceux qui reconnaissent son autorité. Et c'est vrai du sermon sur la montagne, dans lequel nous avons tant de principes que nous avons à reconnaître et à appliquer dans notre vie quotidienne. C'est vrai aussi de ces paraboles, c'est vrai de celle qui va nous occuper, qui nous rappelle le grand pardon dont nous avons été les objets, la lourde dette de nos péchés qui a été effacée, n'est-ce pas, et la responsabilité que nous avons d'agir en fonction de ce que nous connaissons du Seigneur. Et donc bien important de ne pas de nous sentir concernés par ces passages. S'il est question là de l'autorité du Seigneur, cette autorité, elle s'applique sur l'Église dans son ensemble, sans doute, dont il est la tête glorifiée, mais aussi sur chacun des siens.
Le terme de royaume de Dieu n'est pas étranger dans les Épîtres, on le trouve dans les Épîtres. J'aimerais simplement citer dans Romains 14, on regarde un tout petit peu dans Romains 14, au verset 17, et simplement pour nous montrer que nous sommes concernés par ce fait-là. Romains 14, verset 17, il est question du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Et quand on regarde ce passage, ce chapitre, de l'Épître aux Romains, on trouve tout le long de ce chapitre le terme de Seigneur. Au verset 4, le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Verset 6, il y a égard à cause du Seigneur. Il mange à cause du Seigneur. Il ne mange pas à cause du Seigneur. Verset 8, nous vivons ayant égard au Seigneur, soit que nous mourions, que nous mourons ayant égard au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Et encore au verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Le terme de Seigneur nous est tout particulièrement présenté dans ce chapitre, pour montrer l'autorité du Seigneur sur les siens. Et c'est aussi dans ce chapitre que nous avons cette expression, le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Quelque chose qui nous concerne. Quelque chose qui nous concerne dans la manière dont nous recevons la parole de Dieu, dans la manière dont nous marchons pour notre Seigneur, dans la manière dont nous vivons ce qu'il nous dit, et dans la manière dont nous l'honorons aujourd'hui sur la terre, manifestant qu'il a l'autorité dans notre vie.
Il faut donc bien nous souvenir de ceci, que l'expression « le royaume des cieux » est une expression propre au premier évangile. Il y a de nombreux passages où alors il est parlé du royaume de Dieu, et si le Seigneur nous l'accorde, eh bien nous pourrons dire le moment venu quelques mots sur les différentes expressions, il y en a 10 dans le Nouveau Testament, en rapport avec le royaume. Le royaume des cieux tout d'abord, puis le royaume de Dieu, le royaume du Père, le royaume du Fils de l'homme, le royaume de Jésus. Nous ne faisons que de citer ceci en passant. Demain, peut-être, Dieu voulant, nous donnerons un disons un résumé plus complet de cette notion du royaume, mais simplement un petit exemple, voir par exemple pour cette question du royaume des cieux. Dans l'évangile selon Marc, qu'est-il dit au verset 15e, chapitre 1er de l'évangile selon Marc, verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu, il n'est pas dit le royaume des cieux, et disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et croyez à l'évangile. Tandis que si nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4e, que nous est-il dit, après la citation de la prophétie d'Ésaïe, terre de Zabulon, terre de Nephtali, chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Nous avons là un récit similaire en Matthieu et en Marc. Dans Matthieu, le royaume des cieux s'est approché. Et dans l'évangile selon Marc, le royaume de Dieu s'est approché. Il nous faut donc nous souvenir de ceci. L'évangile selon Matthieu est l'évangile du royaume, et plus spécialement du royaume des cieux, expression que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles. La pensée est telle que nos frères en Allemagne ont jugé bon de traduire le premier volume des Saints Entretiens sur les évangiles de Samuel Proudhon. Cette étude à laquelle nous recourons tous, sans doute, pour nos réunions actuelles ici à Jumet. Qu'est-il dit en français, Saints Entretiens sur l'évangile selon Matthieu? Combien est-ce que nos frères en Allemagne ont traduit ce titre? Une très belle façon, l'évangile du roi qui a été promis. Très très beau. Et c'est cela, l'évangile selon Matthieu est cela. Il est l'évangile du roi qui a été promis. Il nous sera donné alors de considérer cette notion du royaume de Dieu dont notre frère vient de parler en citant Romains 14, 17, le royaume de Dieu. En fait, il semble que la différence n'est pas difficile à saisir. Au début, quand nous étions tout jeunes, on avait de la peine un peu à comprendre ce que nos anciens frères fort doués nous disaient concernant le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est entrevoir dans son contraste avec les royaumes de la terre. Du reste, en Daniel, il y a cette expression, il fallait que le roi Nebuchadnezzar apprît ceci, que ce sont les cieux qui dominent, parce que dans les cieux, il y a quelqu'un qui est le roi. Et voilà pourquoi, voilà ce que veut dire cette expression, le royaume des cieux. Le royaume où il y a un roi, et un roi qui doit être écouté. Il était donc sur la terre dans la personne de Jésus. Jésus a été refusé, par conséquent le royaume qu'il aurait établi s'il avait été reçu n'a pas pu être établi. Il est renvoyé à plus tard. Ce royaume, un royaume de 1000 ans, dit le millénium. C'est là le royaume des cieux. Alors notre Seigneur, n'ayant pu établir à cause de l'état de son peuple, établir un tel royaume, notre Seigneur retourne au ciel. Il va au ciel et alors, il est ce roi qui est caché dans le ciel. Le royaume des cieux existe certainement, notre frère en a parlé dans l'introduction, il est le royaume en mystère, et nous le connaissons aujourd'hui comme tel, le royaume en mystère, en attendant que le Seigneur vienne sur la terre, juger et établir sa gloire sur la terre, alors le royaume sera connu en puissance. Pour le moment, il est en mystère, parce que le roi est caché dans le ciel. Voilà ce que implique cette notion de royaume des cieux. Tandis qu'alors, le royaume de Dieu est une nation avant tout d'ordre moral. Alors, Romains 14, qui a été cité, le montre à l'évidence. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce n'est pas manger et boire, mais notre frère l'a dit. Relevons, citons à nouveau ce passage, Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Il y a tout un côté moral qui s'attache à cette notion de royaume de Dieu. Donc ce royaume existe, et le chrétien, quel est-il par rapport à ce royaume? Il est par la grâce de Dieu un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu, et comme tel, nous avons le privilège de nous approcher de notre Dieu. Il est notre Père. Mais nous sommes aussi les sujets de ce royaume. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, mais nous sommes les sujets de ce royaume, et nous devons toute obéissance et toute soumission à celui qui en est le roi. D'où les nombreuses exhortations, dans les épîtres en particulier, concernant le royaume de Dieu, ce qu'il est et comment nous-mêmes, nous avons, chers frères et sœurs, à nous conduire, à nous comporter comme étant les sujets du royaume, les sujets du royaume de Dieu. Il semble que la différence n'est pas difficile à saisir. Le royaume des cieux, une notion plutôt géographique, si on ose employer ce mot, notre Seigneur est dans le ciel, le roi caché dans le ciel. Le royaume des cieux existe, il est en mystère parce que le roi est caché. Il viendra bientôt, ce royaume, dans tout l'éclat de la gloire de notre Seigneur, il sera alors le royaume en puissance. Puis d'un autre côté, nous avons ce royaume de Dieu, le sens moral qui s'attache à cette notion avant tout d'ordre moral, avec tous les enseignements d'ordre pratique, et certainement qu'il sera donné à un frère de nous parler des différentes exhortations très pratiques en rapport avec ce fait que le chrétien est un sujet du royaume de Dieu.
Encore un mot sans allonger ce sujet du roi, que si nous souffrons avec lui, nous allons régner avec lui. Le Seigneur est donc présenté dans la parole de Dieu, psaume 2 notamment, comme étant le roi, le Christ, le Messie, c'est un seul et même terme, et à la fois le Fils de Dieu. Rejeté comme Messie, comme roi, et comme Fils de Dieu, le psaume 8 lui donne un titre nouveau, le Fils de l'homme. Il ne faut donc pas confondre ces titres, ces glorieux titres du Seigneur, Messie, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Comme Fils de l'homme, il va souffrir, il va mourir et il va monter au ciel comme homme glorifié. Je vois, dit Étienne, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. L'expression se trouve 80 fois dans le Nouveau Testament et elle est reprise 3 fois dans les Épîtres, une fois dans Éphésiens 1, en relation avec son élévation, une fois dans 1 Corinthiens 15 et une fois dans Hébreux 2. Le Seigneur est donc monté au ciel en possession de ce titre de roi couronné de gloire et d'honneur. Alors, pour faire comprendre cette différence de dispensation, nous devons nous souvenir que le Seigneur est sacrificateur de deux manières différentes. Aujourd'hui, il exerce dans le sanctuaire, comme homme, une sacrificature selon l'analogie d'Aaron. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Mais demain, il va sortir du sanctuaire comme souverain sacrificateur selon l'ordre si élevé de Melchisédek, afin d'exercer sa domination et sa royauté. Et il y a un type dans le livre du Lévitique qui est très suggestif à ce sujet-là, c'est un petit enseignement très caractéristique, vous le trouvez dans Lévitique 9, où nous avons ces deux gloires bien distinctes. Aaron, nous le savons bien, est un type du Seigneur comme étant le sacrificateur, le grand, fidèle, souverain sacrificateur, dont l'Épître aux Hébreux déploie toutes les gloires devant nous. Et nous lisons que Aaron, verset 22 du chapitre 9, éleva ses mains vers le peuple et les bénit. C'est donc la sacrificature actuelle du Seigneur vue dans Aaron qui étend ses mains pour bénir son peuple. Mais le verset suivant, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent, non plus seulement Aaron, mais Moïse qui représente la royauté, et Aaron qui est le type de la sacrificature, montent et sortent ensemble du sanctuaire.
Ils entrèrent dans la tente, puis ils sortirent et bénirent le peuple. Ce n'est plus seulement Aaron qui bénit en haut, mais c'est Moïse et Aaron qui bénissent le peuple, et la preuve que c'est une scène terrestre associée à la gloire du roi, nous lisons, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. La gloire du Seigneur maintenant comme roi, elle est cachée au ciel, comme fils de l'homme. Jamais le Seigneur ne s'est présenté comme le Messie, sinon à une femme, à une étrangère. Je le suis, moi qui te parle. Mais le Seigneur ne se présente pas comme étant le roi, étant déjà rejeté. Jean 1 nous montre déjà que les siens ne l'ont pas reçu. Mais il prend un titre nouveau, précieux, glorieux, fils de l'homme, celui qui est au ciel et à qui Dieu donne la récompense suprême, bien plus haute que le royaume. Car le royaume prendra fin. Nous savons tous cela. Il remettra le royaume à Dieu le Père. Le royaume aura une fin, afin que Dieu soit tout et en tous. Voilà le propos de Dieu pour l'éternité. Et l'Église sera la compagne du Seigneur pour régner en vie avec lui éternellement.
Au reste, il faut bien dire que le titre de Messie est très rare dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Deux fois, il est parlé du Messie dans l'Ancien Testament, et encore dans le même sujet, Daniel 9, le Messie sera retranché, n'aura rien, et dans le verset suivant, nous avons encore une fois ce nom du Messie, c'est tout. Et puis alors, dans le Nouveau Testament, notre frère a fait allusion à la rencontre de notre Seigneur avec la femme de Samarie. Deux fois dans l'évangile selon Jean, nous avons le nom du Messie. Deux fois dans l'Ancien, deux fois dans le Nouveau Testament, et c'est tout, et cela est frappant. En un temps où l'on parle beaucoup du Messie, et depuis fort longtemps, on parle beaucoup du Messie, il semble que c'est un titre de gloire extrêmement répandu dans la parole de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Deux fois dans l'Ancien Testament, deux fois dans le Nouveau et dans l'évangile selon Jean, lorsque André peut dire à son frère « Nous avons trouvé le Messie », et puis la femme de Samarie peut dire « Nous savons que le Messie vient et il nous révélera toutes choses ». Le nom du Messie est rare dans la parole de Dieu. Cela n'empêche pas que c'est un titre de gloire de notre Seigneur. C'est un terme hébreu, traduit en grec c'est « le Christ », traduit en français c'est « celui qui est oint », envoyé par Dieu. Tout cela ouvre un champ immense de méditation pour nos âmes et d'adoration à l'égard de la personne de notre Seigneur. Mais le terme de Messie, nous l'avons strictement quatre fois dans la parole de Dieu. Donc très peu parlé de ce titre de gloire. En rapport avec cette scène remarquable de l'institution de la sacrificature en Lévitique 9, où notre frère nous rappelle maintenant que Moïse est présenté comme étant le roi, un type de celui qui viendra et qui régnera. Il sort avec Aaron, alors le souverain sacrificateur, et nous pensons tous à Zacharie 6 qui nous dit « Il régnera, il est parlé du Seigneur, il régnera, voilà le roi ». Et qu'est-ce qui régnera sur son trône? C'est ce sacrificateur dont parle Zacharie 6. Il sera sacrificateur qui s'assiera sur son trône. Voilà la sacrificature et la royauté, les deux gloires fondamentales en rapport avec la terre de gloire de notre Seigneur. Moïse a été roi, chers amis, ça est dit dans la parole de Dieu. Moïse a été un roi. Connaissons-nous les titres de Moïse d'après les deux derniers chapitres du livre du Deutéronome? Moïse est présenté comme étant un roi. Moïse a été roi, est-il écrit au verset 5 de ce chapitre 33. Il a été roi. Un peu plus loin, il a été le législateur, celui par qui Dieu a donné la loi du Sinaï. Et puis, il est celui qui est appelé le serviteur. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, monta sur le mont Pisga. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu et que Dieu l'a recueilli dans sa présence. Le mot de serviteur, là, est un terme extraordinairement beau que nous retrouvons exactement en Hébreux 3 où il est parlé de la fidélité de Moïse, serviteur de l'Éternel. Et puis alors, au chapitre 34, il nous est parlé de Moïse comme prophète. Moïse a été roi, législateur, serviteur de l'Éternel et le prophète. Et il n'y en a pas eu un deuxième comme lui. Il n'y eut aucun homme comme Moïse, un tel serviteur avec qui Dieu a parlé face à face. Mais quel est le titre suprême? Il y a ces quatre titres dont nous parlons dans le texte même, ces deux chapitres. Comment commence le premier du chapitre, chapitre 33? Voici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il a été l'homme de Dieu. Et cela est le titre le plus élevé qu'un homme puisse avoir. Homme de Dieu. Un homme qui a été envoyé par Dieu. Un homme qui vient de la part de Dieu. Un homme qui est appelé à représenter moralement, parlant dans ce monde, appelé à représenter Dieu et appelé à servir Dieu exactement comme prophète parlant de la part de Dieu et devant Dieu. Voilà ce que fut Moïse. Il fut tout d'abord homme de Dieu. Puis, parce qu'il a été homme de Dieu, il y a eu ces différents titres dont nous parlons.
Bientôt, Seigneur,